France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Nous vivons dans un monde saturé d'images, entre photographies prises au smartphone, images retouchées et désormais images générées par l'intelligence artificielle. Le regard est sollicité sans cesse et sans arrêt. Cette profusion ne pose pas seulement un problème technique ou esthétique, elle interroge également notre manière de voir, de croire aux images et de leur accorder une valeur de vérité. Ce soir, à l'occasion du bicentenaire de la photographie, revenir sur son invention permet de comprendre ce qu'elle a profondément transformé, non seulement notre façon de représenter le monde, mais notre regard lui-même. Alors comment la photographie a-t-elle révolutionné notre manière d'appréhender le réel et que nous apprend la saturation actuelle d'images sur ce que la photographie nous a fait, nous fait encore, transforme le regard? Une invitée ce soir pour dresser cette longue histoire et notre rapport à la photographie, Dominique de Fonréau. Bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes historienne de l'art, présidente du conseil scientifique du bicentenaire de la photographie. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir.
On est aveuglé par les images et on ne comprend pas très bien l'origine de cet aveuglement. Alors, à l'école, on nous apprend à écrire et à lire. Mais personne ne nous apprend, nous enseigne à voir les images et à comprendre les images. Et c'est vraiment très grave parce que les images ne sont pas innocentes. Nous sommes bombardés tous les jours par environ 4000 images. Et ces images nous racontent le monde. Et toutes ces images, elles essayent de nous vendre quelque chose, de nous vendre un produit ou une idée du monde. Une certaine idée du monde. Donc nous sommes formés intellectuellement par ce paysage médiatique, par ces images.
La voix et les propos d'Alfredo Oja, artiste, architecte, photographe, réalisateur chilien. On aurait presque pu faire l'émission entière avec la substance de ce qu'il vient d'expliquer, Dominique de Fonréau. Pour commencer, comment expliquez-vous qu'à l'école, on apprenne à lire, écrire, compter, mais pas à voir ?
Alors, je ne me l'explique pas tout à fait, mais je le déplore, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que je ne comprends pas bien pourquoi l'enseignement de l'image et l'enseignement de l'image photographique n'est pas inscrit dans les programmes, j'allais dire dès l'école primaire et ensuite au collège et au lycée. Je ne sais pas. En fait, peut-être parce que, d'abord, on est dans un monde, notamment en France, qui est un monde très littéraire, hein, qui nous a formés et dont on peut se réjouir. Donc, on a ce rapport au texte qui est certainement primordial. Et puis aussi, c'est quelque chose que je dis assez souvent et dont je me suis fait la réflexion depuis un petit moment, peut-être parce que, finalement, les images, et notamment les images de la photographie, sont presque trop transparentes. C'est-à-dire qu'on aurait l'impression qu'il n'y a rien à en dire, simplement qu'elles soient là. Et c'est toujours assez étonnant, par exemple, dans les livres d'histoire, de voir qu'on emploie une photographie souvent sortie de son contexte, sans le rappeler, sans rappeler son auteur, sans rappeler sa première diffusion, sans rappeler sa technique, etc. Ce qu'on ne ferait jamais avec un autre art, qu'on ne ferait jamais, par exemple, avec la peinture ou même avec l'estampe. Et je pense qu'il y a là un véritable enjeu qui est porté depuis longtemps par beaucoup des professionnels à la fois de l'histoire de l'art, mais aussi plus globalement de l'engagement éducatif, de donner à lire les images photographiques, de donner ces clés de représentation, de voir qu'elles sont toujours situées, toujours engagées, qu'elles sont effectivement, comme le disait Alfred Ojard, une manière de lire le monde, une manière orientée de lire le monde.
Alfred Ojard dit également au début de son intervention que les images ne permettent pas nécessairement de voir, d'ouvrir un espace dans lequel voir. Il dit que ces images nous aveuglent d'abord et avant tout. Comment est-ce que vous interprétez ces mots ?
D'abord, c'est quand même le lien, évidemment, premier du rapport à ce terme image, de ce rapport imago, qui est aussi un rapport à l'idole et aussi à la vision, qui est une vision aussi sacrée. Il faut avoir ça à l'esprit. Et c'est toujours là, dans la notion de l'image, D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a toujours aujourd'hui, et il y a eu beaucoup de civilisations iconoclastes pour effacer les images. C'est d'ailleurs intéressant de voir que certaines civilisations iconoclastes ne sont pas iconoclastes pour la photographie, mais ça nous emmènerait sans doute un peu loin. Donc il y a cet élément-là, qui est un élément fort hein, de représentation, dans ce que ça a de plus fort comme présence, donc cet rapport à la présence et donc à l'aveuglement. Il y a aussi le fait que ces images n'étant pas élucidées, n'étant pas analysées, n'étant pas explicitées, d'une certaine manière, nous arrivent comme autant de bombardements, puisqu'en fait notre cerveau ne les digère pas comme elle le ferait d'un texte auquel on est habitué, mais en fait, comme si c'était une sorte de répétition qui était là et qui oblitérait notre manière de penser. Donc c'est très intéressant, d'une certaine manière, de donner les moyens à toutes et à tous d'être voyants.
Et puis Alfred Hojard dit également que chaque image, au fond, nous vend quelque chose évidemment à travers la publicité, un produit, peu importe, vend également une idée, une vision, une représentation du monde. C'est aussi comme cela qu'il faut appréhender chaque image.
C'est toute l'ambiguïté de la photographie, parce qu'elle naît comme une sorte de vision exacte du réel, comme si l'objet se superposait à sa représentation, qu'il n'y avait pas de distance entre l'objet et sa représentation.
Comme s'il y avait une neutralité finalement dans l'image photographique.
Complète. C'est l'utopie de la photographie. C'est ce qui séduit beaucoup d'ailleurs hein, François Arago, qui est un des premiers soutiens de la photographie, à la fois astronome et homme politique. Il rêve d'un instrument qui permettrait de réduire complètement cette distance-là. Bien sûr, c'est une utopie. C'est une utopie, puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire ça. On ne peut pas faire ça, pour des différentes raisons qui sont aussi des raisons matérielles, hein, de matérialité. Mais c'est certainement l'idée reçue et l'utopie la mieux partagée. C'est-à-dire que si quand on sort de la maison de la radio tout à l'heure, si on fait un sondage sur le quai, je suis à peu près certaine que 98% des gens vont nous répondre, peut-être plus même, vont nous répondre que si la photographie se superpose avec la réalité et que donc elle nous montre le monde tel qu'il est.
Mais si c'était le cas, pardonnez-moi, si c'était le cas, si la photographie représentait le monde exactement comme il l'était, est-ce que la photographie n'en serait pas plus pauvre ?
Bien sûr que oui, c'est bien pour ça que c'est super, c'est formidable.
C'est d'abord un regard, la photographie.
C'est formidable, c'est ce que j'allais dire. C'est que ce qui est formidable, c'est que heureusement qu'elle n'est pas liée à cet idée reçue. Heureusement que dans cette distance mentale qu'il y a entre l'utopie, c'est-à-dire de croire que ça superpose exactement, et le fait que ce ne soit pas le cas, les photographes, depuis le début de la photographie, mais vraiment depuis le tout début de la photographie, se sont emparés de cet espace mental et on en fait un espace de créativité. Et bien sûr, la photographie, c'est toujours un regard orienté, puisque c'est un cadrage, c'est un choix de sujet, c'est un choix de lumière, c'est un choix de temporalité, c'est un choix de mise en perspective, c'est un choix d'ensemble. Mais avec toujours cette idée reçue. Donc ça, c'est assez formidable parce que du coup, ça crée des représentations du monde qui se donnent à voir comme si elles étaient les reproductions exactes, objectives du monde, alors qu'elles sont des représentations orientées et que elles construisent, comme le dirait par exemple un certain nombre de philosophes cette idée de et par exemple Carlo Ginzberg, cette idée de la trace en fait, de quelque chose qui est de l'ordre de la trace qui d'une certaine manière nous permet de réinventer d'autres modes de représentation du monde.
La pointe avancée officiellement hein, de l'image aujourd'hui, ce serait l'intelligence artificielle. Est-ce que ce règne à venir, qui se forme déjà de l'intelligence artificielle, vous inquiète, Dominique de Fonréau ? Et au-delà, est-ce que l'intelligence artificielle inquiète la photographie elle-même ?
Alors, je ne suis pas devin. Enfin, je pense que vous le savez, mais donc je le rappelle quand même. Je ne suis pas devin. Donc je vais pas commencer à commencer, surtout dans cette période complexe de ce début d'année 2026 à
dire. Mais actuellement,
voilà. Mais actuellement, ce qui serait susceptible de m'inquiéter, après je reviendrai sur votre deuxième partie de question, pour l'intelligence artificielle, ce n'est pas son rapport technique, c'est son rapport capitalistique. Ce qui nous entraînerait trop loin. Je suis par ailleurs pas historienne de l'économie, mais c'est vrai que là, cet enjeu est là, c'est-à-dire cette concentration dans les mains de quelques-uns pour en faire quelque chose qui est partie liée avec de l'argent. Donc ça, c'est la complexité. En revanche, d'un point de vue purement, j'allais dire, de conception et aussi iconographique, cet enjeu de l'intelligence artificielle qui est de recréer le monde, elle est en germe dans la photographie depuis son début, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est assez frappant, c'est que Alors même que l'invention se donne comme une reproduction exacte du réel, elle commence à tricher, si on peut dire comme ça, que ce soit par le choix des objets, qui sont en fait composés pour l'image, quand on pense par exemple aux premières natures mortes de Daguerre, ou que ce soit par le traitement de la lumière, avec par exemple des ciels qui sont cachés, ou au contraire des mers qui sont cachées, enfin voilà, des mers mother, voilà, qui sont cachées. Donc c'est vrai que, encore que des mers cachées, il y en a aussi, mais c'est un autre sujet.
Et, des mers méditerranées.
Voilà, mais c'était la Méditerranée dont je parlais. Donc c'est vrai que il y a là quelque chose de très intéressant parce que cet artifice-là est là tout de suite. Et c'est assez passionnant et c'est ce qui fait que l'intelligence artificielle, en fait, à la fois peu inquiétée par cette dimension capitalistique, mais d'un point de vue créatif, intéresse aussi beaucoup de photographes aujourd'hui, qui d'ailleurs l'utilisent parfois, soit simplement en l'utilisant comme un répertoire d'images, comme d'autres répertoires d'images, et ça c'est très bien, soit d'un point de vue génératif, mais pour jouer avec ça. Et dans le cadre notamment de la commande photographique qui a été passée par le CNAP, sur réinventer la photographie, il y a des jeunes artistes qui travaillent justement sur ces sujets-là.
Le CNAP, hein, il faut rappeler que le CNAP, c'est le Centre National des Arts Plastiques. Je voudrais vous faire entendre une autre voix que vous vous affectionnez, celle de Roland Barthes cette fois-ci. Il parle également du rapport entre photographie et mort.
La fascination de la photographie, c'est toujours pour moi la fascination du « ça a été ». Cela a été. Donc finalement, ce qui me fascine dans la photo, et vraiment les photographies me fascinent, c'est quelque chose où la mort a son mot à dire, certainement. C'est peut-être une fascination un petit peu nécrophilique, pour dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas ? C'est une fascination de ce qui a été mort, mais qui se représente comme voulant être vivant. Alors il faudrait, je le répète, essayer de retrouver toute une esthétique générale de la fascination, qu'on retrouverait aussi des correspondants dans le texte, par exemple un temps grammatical comme l'imparfait, qui est aussi pour moi le temps de la fascination, qui est si important dans les romans précisément, qui est le temps du « ça a été », mais en tant qu'on le désire, en tant qu'on l'a désiré, en tant qu'il est là et qu'en même temps, il n'est plus là. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, en commençant, que la photographie est mais douloureuse. Enfin, les plus belles photographies me sont douloureuses, parce que je dirais que l'image, c'est toujours un petit peu ce dont je suis exclu. La définition que je donnerais de l'image, c'est ça. C'est ce dont je suis exclu.
Bon, là aussi, Dominique de Fonréau, on pourrait faire l'émission entière en faisant l'exégèse de ce passage. Alors, sélectionnons, commençons par peut-être la photographie, c'est ça, c'est ce qui a été. Comment vous interprétez ces mots-là ? Est-ce que cela signifie que la photographie, c'est d'abord un rapport à la mémoire, à l'instantané et à d'ores et déjà ce qui n'est plus, ce qui ne peut plus être ?
Ce qui est fascinant pour la photographie, c'est que au moment de sa conception, elle poursuit deux buts. L'un but sur lequel je vais revenir, qui est celui de la réduction des temps de pause et qui a un rapport avec le « ça a été », et l'autre qui a un rapport à la couleur, mais qu'on n'évoquera pas forcément aujourd'hui. Ce rapport au temps de pause, c'est assez formidable parce que ça anime beaucoup les premiers photographes, jusqu'à arriver finalement assez vite au dixième de seconde, donc à une forme d'instantanéité, assez vite, puisqu'en quelques dizaines d'années, donc ça va assez vite.
Un mot juste sur les temps de pause. Il fallait, lorsque on débute dans l'art de la photographie, au mi-temps des années 1820, il fallait 3 jours parfois pour capter justement un moment, un instant.
Ce qui est le cas pour Niepce, pour sa fameuse photographie Point de vue du gras conçue en 1827, c'est qu'effectivement, il faut 3 jours pour l'avoir fait, mais même au moment de Daguerre et de la mise en place des daguerréotypes, il a encore 20 bonnes minutes, à peu près. Donc c'est encore très long, ce qui interdit un certain nombre de choses d'ailleurs. Et donc, il y a cette course après le temps de pause. Mais une fois qu'on l'a réglé, ce qui vient quand même assez vite, il faut dire la vérité, en à peine quelques décennies, donc assez vite, très vite, les photographes se rendent compte que la photographie ne peut pas parler d'un temps qui est toujours là, mais elle parle toujours d'un temps d'avant. Ce fameux « ça a été », comme le dit Barthes formidablement bien. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est passionnant, c'est que la photographie, même au plus près du réel, a toujours partie liée avec quelque chose qui est déjà passé. Si on prenait une photographie, nous, par exemple, Quentin, ce serait déjà un instant passé quand nous la regarderions, de façon évidemment absolument évidente, et nous parle aussi toujours, et c'est ce qui fait l'attachement de Barthes pour la photographie, et beaucoup plus modestement de moi aussi, d'un récit. C'est-à-dire que la photographie entraîne très vite cette idée du récit, d'un récit dont on est, comme Barthes le souligne, éventuellement exclu, puisque nous ne sommes pas sur l'image, ou si nous le sommes sur l'image, nous ne sommes pas nous comme nous sommes aujourd'hui, puisque nous sommes nous avant, que de ce que nous sommes là présentement. Donc c'est extraordinairement intéressant ce rapport-là entre le, la narration, entre le récit et l'image.
Est-ce pour cela également que la mort a toujours son mot à dire dans la photographie? Parce que dès que l'on s'intéresse à un instant en particulier, il est déjà achevé, il s'est déjà évaporé.
La mort est aussi notre rapport à notre propre finitude. C'est pour ça que ces images aussi fascinent et ces images peuvent aveugler. C'est-à-dire que c'est banal, une photographie, ça peut apparaître comme banal, mais en fait, ça parle toujours d'un temps que nous sommes obligés de reconstruire ou que nous gardons en mémoire ou que nous gardons en souvenir. Et pour nous, c'est évident, parce que nous sommes tous nés très très longtemps après l'invention de la photographie. Mais pensez par exemple que nous qui avons des photographies, vous les avez certainement de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, voilà. Nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas de photographies de leurs arrière-grands-parents, par exemple. Donc ce rapport au temps, y compris un temps intime, qui est un temps de rapport à nos proches, hein, qui n'est pas un rapport à des gens que nous ne connaissons pas, mais un rapport à nos proches, n'est pas du tout celui que nous avons aujourd'hui. Et ça nous inscrit dans une temporalité qui renouvelle forcément notre position dans le monde.
D'un monde avant et après la photographie, vous dites dans Libération, Théophile Gautier imagine que quelqu'un qui a fait naufrage en 1938 et reviendrait en France en 1855 ne reconnaîtrait pas le monde du fait de l'invention de la photographie, fin de citation. Est-ce à dire que la Révolution bouleverse l'entièreté du monde, qu'on a affaire là, au moment de son invention, à une véritable révolution copernicienne?
C'est ce que dit Gautier. Alors, vous connaissez Théophile Gautier, il aime bien jouer avec les idées, en faire un peu.
En rajouter un peu également.
C'est un travestisseur, c'est un magicien. Mais tout de même, ce qui est quand même très important à se dire, c'est que la plus ancienne photographie connue, c'est celle, point de vue du Graal de Niépce, qui date donc du printemps 1827.
Il faut la décrire, d'ailleurs, photographie.
Cette photographie, c'est une photographie qui, en fait, montre des ombres, si on peut dire ainsi, puisque en fait elle est vue de la propriété de Niépce, donc au Gras près de Chalon-sur-Saône, et qu'en fait comme il a posé longtemps, on voit l'ombre qui tourne sur le mur d'en face, donc elle montre des ombres, c'est assez beau d'ailleurs, c'est assez fantomatique et c'est assez beau. Donc c'est la plus ancienne connue. Je dis bien connu parce qu'on pourrait toujours imaginer.
Et qui nous est parvenu, effectivement.
Et qui nous est parvenu, parce qu'il y en a sans doute d'autres, mais que nous ne connaissons pas. Ensuite, voté en juillet 1839 à l'initiative d'Arago, une loi sur la photographie qui rend accessible le daguerreotype, qui est une invention de Jacques-Louis Daguerre, en association avec Niépce, puis avec le fils de Niépce. Et donc, si on considère 1839 comme ce début de la diffusion de la photographie, il faut avoir à l'esprit que dès la fin des années 1840, il y a des ateliers de daguerreotypistes à peu près dans toutes les grandes villes de France. Donc c'est d'aller très vite. Et je parle de la France, mais c'est vrai, il y a des ateliers aussi à Saint-Pétersbourg, il y a des ateliers aussi en Amérique, du Nord comme du Sud. Donc c'est d'aller très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que certainement à cette époque-là, cette idée de photographie qui m'est très chère, et pour reprendre un titre d'un grand historien de la photographie, François Brunet, malheureusement trop tôt disparu, cette idée de photographie, elle est dans l'air à ce moment-là. Elle est partagée par plusieurs. C'est-à-dire que on peut considérer Niépce comme l'inventeur, ou Daguerre comme l'inventeur, ou William Fox Talbot comme l'inventeur. Enfin, vous savez dire qu'il y a plein de guéguerres, chacun a son champion.
Il y a une concurrence des inventeurs.
Voilà, bon, ça c'est pas grave, tant mieux, moi je trouve ça plutôt bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce premier tiers du 19e siècle, que ce soit en France, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, au Brésil au moins, il y a des personnes qui ont cette même idée, c'est-à-dire de garder la trace de ce qui se forme dans la chambre.
Et parfois sans être en lien, par ailleurs.
Et sans être en lien, la plupart d'entre eux, parce qu'ils ne se connaissent pas. Quand Talbot apprend l'annonce par Arago en janvier 1839 de l'invention de Daguerre, il est furieux. Il se dit, ça y est, je me suis fait blouser. Enfin, pardon de parler comme ça, je ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Et que Niépce et Daguerre, qui ne se connaissaient pas, s'associent, mais sans vraiment se fréquenter. Ils s'associent parce qu'ils espèrent arriver à quelque chose. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là, d'idée qui est dans le temps et de cette force de la photographie qui, pour moi, est à la fois fille d'une forme d'une exploration positiviste du monde et aussi fille du merveilleux du romantisme. Elle porte les deux éléments en germe. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement créatif.
Elle est fille des Lumières, fille du scientisme presque, et fille du romantisme.
Et fille du romantisme également, parce que dans son rapport à la lumière, elle est aussi fille de quelque chose qui est dans un rapport fantasmé, en fait, et illusoire au passé.
Comment la photographie, cet art aussi qui travaille l'image et le réel à la fois, Dominique de Fonréau, comment la photographie vient-elle bouleverser l'autre grand art de l'image qu'est la peinture?
Alors ça, vous connaissez l'aphorisme hein, qui est attribué à Paul Delaroche, mais qui en fait, je crois, ne l'a jamais dit. De ce jour, la peinture est morte. Évidemment, c'est chic. Enfin, une fois qu'on a dit ça, c'est pas mal. En fait, c'est pas vrai.
Non, on retient la formule.
Oui, c'est ça. En fait, évidemment, il n'y croyait pas lui-même. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. La peinture n'est pas morte, et fort heureusement. Mais c'est vrai que la photographie vient bousculer la peinture dans le fait qu'elle n'en est pas si différente non plus. Ce qui est quand même intéressant, c'est que par le biais de la caméra obscura, la photographie se met dans les pas de la perspective albertienne, de la fenêtre sur le monde. Et que donc, elle garde cette idée de la représentation, quand même, d'une représentation qui est une représentation codifiée. Il faut l'avoir à l'esprit, c'est un point quand même important à souligner. Donc ça, c'est un point important. Et que par ailleurs, d'un point de vue représentation, elle induit quelque chose de nouveau et que très vite émerge cette nouveauté. C'est-à-dire, bien sûr, un modèle de la peinture qui vient de cette perspective albertienne, qui vient aussi de ces modèles préexistants, mais également quelque chose qui n'appartient qu'à la photographie, qui est le fait que, même si le photographe triche en partie, il compose avec ce réel qui est devant sa caméra et que donc, du coup, il fait surgir des univers de représentation qui n'auraient pas été représentés, que ce soit pour parler d'une photographie très tôt de Daguerre, le bateau lavoir qui est à côté du Louvre, un peintre qui aurait représenté le pavillon de Flore n'aurait représenté que le pavillon de Flore et pas le bateau lavoir, que ce soit par exemple aussi pour un sujet sur Notre-Dame, une photographie très tôt, où les échafaudages sont toujours présents, les échafaudages n'auraient pas été laissés. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui se collecte et avec une opposition et en même temps, la photographie rentre dans tous les ateliers d'artistes très tôt, très très tôt. Et il y a une sorte de pas de deux permanent tout au long du XIXe siècle entre peinture et photographie.
En retour, et pour rester à la toute fin cette fois-ci du XIXe siècle, comment est-ce que la mise en mouvement de l'image, grâce au cinéma inventé en 1895, va là aussi bouleverser cette fois-ci en retour la façon de faire de la photographie?
Ça, c'est aussi un point passionnant parce que... vraiment, ce que je trouve passionnant dans la photographie, c'est ce rapport à l'idée, ce rapport à l'utopie. Et le mouvement, c'est une aporie. Parce que ils recherchent, les photographes se disent, réduisons les temps de pause, on va reproduire le mouvement. Or, en fait, quand on arrive à l'instantané le plus fin, on présente un mouvement arrêté. On ne présente pas l'homme courant, on présente l'homme au-dessus de la terre. On ne présente pas quelqu'un en train de sauter, on représente quelqu'un dans l'air, etc., etc. Et donc, la photographie ne peut pas reproduire le mouvement, puisqu'elle est toujours, elle représente quelque chose qui peut être au plus près, mais qui en même temps est quelque chose qui le stoppe, qui le bloque. D'où ce rapport d'ailleurs au temps qu'on évoquait avec, en mentionnant Barthes tout à l'heure. Et le cinéma vient de la photographie. En grande partie, hein. Vous le savez, il y a bien sûr les frères Lumière, mais il y a aussi Jules-Étienne Marais, et donc qui était à la fois un homme de science et qui a travaillé sur la chronophotographie et sur l'étude du mouvement, ou Muybridge aussi aux États-Unis. Donc il y a ce rapport-là qui est lié à la photographie avec quelque chose qui permet de lier différents appareils entre eux, différents objectifs entre eux pour permettre la reproduction de l'image. Mais le cinéma aussi, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, à partir lié avec l'invention de la photographie, dans la mesure où il replonge, comme la photographie, au spectacle optique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, notamment celui de diorama de Daguerre, parce que Daguerre était aussi cet inventeur de ce diorama, diorama qui jouait avec ce rapport à la lumière illusionniste et que, bien sûr, que le cinéma, en introduisant cette notion-là, va reprendre de manière magnifique.
Cette discussion, Dominique de Fonréau, était d'abord et avant tout un avant-goût, une mise en bouche. De quoi le bicentenaire de la photographie sera-t-il fait en quelques mots?
En quelques mots, c'est une fête pour la photographie. On a reçu, on a déjà labellisé plus de 180 projets. On vient de recevoir presque 1000 nouveaux projets, qui est pas l'idée que forcément les 1000 seront labellisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur l'ensemble du territoire français, l'Hexagone, mais aussi les territoires ultramarins. C'est dans les grands établissements qui comptent, et la Bibliothèque nationale, par exemple, le Musée d'Orsay, le Centre Pompidou. Mais c'est aussi le Louvre, mais c'est aussi dans des festivals, c'est aussi dans des centres d'art, dans des bibliothèques. Et l'idée, je l'espère, c'est que ce soit une fête qui permette justement de porter ce dont nous parlions au début de l'émission, c'est-à-dire la lecture de l'image photographique, et qu'on puisse, en lien avec l'éducation nationale, arriver à mettre en place des programmes éducatifs en direction de tous. C'est mon vœu le plus cher.
Pour apprendre donc à lire l'image, à s'arrêter aussi devant elle. Merci beaucoup Dominique de Fonréau, historienne de l'art, présidente du Conseil scientifique du bicentenaire de la photographie. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la technique et à la réalisation ce soir. François Richer.